quotidien sur RFI. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau journal. Il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
Mathis Limano.
À la une, contribuer à la paix régionale et refuser toute polarisation. Déclaration des nouvelles autorités à Damas, la capitale syrienne, où le Qatar a rouvert son ambassade aujourd'hui, emboîtant donc le pas à Ankara. De son côté, l'Union européenne envisage de faire de même. Les développements en début de journal. L'horreur et la stupéfaction en Allemagne également au sommaire. 5 morts et plus de 200 blessés selon le dernier bilan dans l'attaque à la voiture Bélier. Hier, le marché de Noël de Magdebourg visé, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu sur place aujourd'hui. Et puis en Serbie, la contestation ne faiblit pas. 7 semaines après l'effondrement d'une partie du toit de la gare de Novi Sad, 15 victimes. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
RFI.
La Syrie tient son nouveau chef de la diplomatie, Assad Hassan al-Shibani, nommé ministre des Affaires étrangères par les nouvelles autorités syriennes, chargé d'organiser les relations avec les représentations étrangères qui font une à une leur retour à Damas après la chute de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, Vincent Souriau, c'était au tour de l'ambassade du Qatar de rouvrir ses portes.
Après 13 ans d'absence, le Qatar vient de rouvrir son ambassade en Syrie. Elle avait fermé dès juillet 2011, quelques mois après le début de la répression orchestrée par la famille Assad contre les manifestants pro-démocratie. Les Qatariens prennent la suite de la Turquie, première nation à reprendre pied à Damas. L'ambassadeur turc s'y est installé moins d'une semaine après la chute de l'ancien régime. Il y a quelques jours, l'Union européenne s'est dit prête, elle aussi, à suivre le mouvement et à ranimer sa mission diplomatique sur place. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les États-Unis n'ont pas encore sauté le pas, mais ces quatre pays ont envoyé des émissaires en Syrie afin de se familiariser avec le nouveau pouvoir. Le drapeau français a bien été hissé au fronton de l'ambassade de France à Damas, mais le bâtiment reste jusqu'ici fermé et le restera selon les autorités françaises tant que les critères de sécurité nécessaires à sa réouverture ne seront pas remplis.
Contribuer à la paix régionale, construire des partenariats stratégiques et refuser toute polarisation. La volonté d'ouverture aux pays de la région affichée hier par les nouvelles autorités à Damas, la région, ou à Gaza. Un cessez-le-feu est plus proche que jamais. La déclaration du Hamas, du djihad islamique et du Front populaire de libération de la Palestine réunis hier au Caire. Dans un rare communiqué commun, les trois groupes estiment qu'une trêve accompagnée d'un échange de prisonniers est possible avant la fin de l'année si l'ennemi cesse d'imposer de nouvelles conditions. Fin de citation. 5 morts et 200 blessés, certains grièvement. Dernier bilan de l'attaque hier soir à la voiture Bélier. Attaque qui a visé le marché de Noël de Magdebourg, ville allemande située à 160 km de la capitale Berlin. Parmi les derniers développements, une déclaration de la ministre allemande de l'Intérieur. L'auteur présumé, un médecin d'origine saoudienne, est selon elle islamophobe. Cette ministre, Nancy Faeser, s'est rendue sur les lieux du drame ce matin aux côtés du chancelier Olaf Scholz. Celui-ci a promis d'agir contre ceux qui veulent semer la haine, on l'écoute.
Il est important, lorsqu'un événement aussi terrible se produit avec autant de blessés et de morts, que nous restions soudés, que la haine ne s'impose pas, mais que notre communauté reste animée par la recherche d'un avenir commun. Ceux qui répandent la haine n'ont droit à aucun pardon. L'auteur de cette attaque doit être poursuivi avec toute la rigueur prévue dans notre arsenal juridique. Il en va de notre avenir.
Et le profil du suspect sème le trouble. Il s'agit d'un psychiatre saoudien de 50 ans, formé en Allemagne. Il y vit depuis 2006, farouche opposant au régime du royaume. Il reprochait notamment à l'Allemagne sa politique d'asile des réfugiés saoudiens, selon le procureur local. L'actualité en Europe, ce sont aussi les futures relations internationales avec Washington, qui se dessinent peu à peu. Des relations qui s'annoncent déjà compliquées avec le retour au pouvoir de Donald Trump dans moins d'un mois. Via un message sur son réseau social, il a donné le ton de ses futures relations et il menace l'UE de taxes douanières si elle n'achète pas le pétrole et le gaz américain, Nathanaël Vitran.
J'ai dit à l'Union européenne qu'elle devait compenser le déficit commercial abyssal des États-Unis en achetant notre pétrole et notre gaz en grande quantité, écrit Trump, puis en lettres capitales, sans quoi, tarifs douaniers. Donald Trump semble tout aussi décidé que lors de son premier mandat à pratiquer une diplomatie par réseau social interposé. Mais de quoi parle-t-il exactement? D'abord, c'est vrai, les États-Unis accusent et depuis longtemps un important déficit commercial vis-à-vis de l'UE. En 2022, il dépassait les 130 50 milliards de dollars. Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine et les États-Unis ont largement remplacé la Russie pour fournir les Européens en gaz et en pétrole. D'autant que les investissements dans la fracturation hydraulique ont fait des États-Unis le premier producteur d'hydrocarbures au monde devant l'Arabie Saoudite. En valeur, les Européens importent plus de gaz et de pétrole américain que n'importe quel autre produit. En conséquence, depuis 2 ans, les importations européennes ont augmenté beaucoup plus vite que les exportations. Visiblement, pas assez vite pour Donald Trump.
Nathanaël Vitran du service éco de Radio France Internationale. En Serbie, une cinquantaine d'universités bloquées par les étudiants et lycéens. Chaque jour, partout dans le pays, ils interrompent également la circulation des voitures pendant 15 minutes en hommage aux 15 victimes de l'effondrement d'une partie du toit de la gare de Novi Sad. Le drame a eu lieu il y a 7 semaines, mais la contestation contre la corruption et l'impunité en Serbie, elle, ne faiblit pas. Correspondance depuis Belgrade de Laurent Rouy.
En plein Belgrade, ces étudiants bloquent un carrefour 15 minutes. En silence. La manifestation contre la corruption survient après l'effondrement mortel du haut vent de la gare de Novi Sad, alors que la justice semble peu motivée à chercher les responsables. On écoute un étudiant.
Les étudiants demandent que toute la documentation liée à la reconstruction de l'ensemble de la gare qui s'est effondrée sur des personnes soit rendue publique. Nous estimons que les citoyens de Serbie, tout comme nous, les étudiants, avons le droit de savoir qui sont les responsables de cet accident.
Le mouvement anticorruption grandit. Proglas, un groupe d'intellectuels, organise des débats, comme ici à Vrbas, dans le Nord, avec Milojko Arsic, économiste.
La corruption systémique se manifeste de cette manière. Les contrats avec l'État sont attribués à des entreprises dont les propriétaires sont proches du pouvoir en place. Une partie des fonds issus de ces projets obtenus auprès de l'État est utilisée pour financer le parti au pouvoir, mais aussi pour l'enrichissement personnel des membres du gouvernement actuel. Bien sûr, ces propriétaires d'entreprises s'enrichissent également tant qu'ils restent loyaux envers le pouvoir. Le gouvernement évite de lancer des enquêtes contre de telles personnes.
Étudiants et protestataires sont bien décidés à faire entendre leur voix. Ils organisent une grande manifestation dimanche. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
RFI également au Portugal, 21h, passé de 7 minutes à Lisbonne. Une loi portée par le gouvernement est passée avec l'appui des députés d'extrême droite. Elle vise à restreindre l'accès aux soins des immigrés s'ils ne sont pas résidents au Portugal. Une montée sécuritaire dont s'inquiète opposition et humanitaire. Au Portugal, ils sont 1 million d'immigrés, pas tous légalisés. Marilyn Darcy.
Le tourisme de santé, c'est fini. Au Portugal, la droite et l'extrême droite ont fait bloc à l'Assemblée nationale pour adopter un changement à la loi de base de la santé. Désormais, les non-résidents sur le territoire, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne, ne pourront plus bénéficier gratuitement des soins dans les hôpitaux du pays. L'objectif affiché est de réduire l'engorgement des services de santé et de diminuer les coûts, même si l'impact de ce tourisme de santé n'est pas clairement évalué financièrement. L'opposition tout entière s'est indignée contre ce qu'elle considère comme un glissement vers les thèses du Chega, le parti d'extrême droite. Alors que la loi était adoptée, le même jour, le gouvernement ordonnait une opération policière d'envergure dans la Mouraria, le quartier des immigrés du centre de Lisbonne, afin, a-t-il justifié, de montrer la sécurité à l'œuvre. Les résultats très minces, un clandestin, quelques faux papiers et des produits contrefaits découverts sont un contre-exemple, mais la dérive droitière inquiète. Un mois après les émeutes de lieu provoqué par la mort d'un Capverdien tué par la police. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Et puis les premières surprises en Coupe de France de football. Montpellier qui vit déjà un calvaire en championnat cette saison. Bon dernier de Ligue 1 avec 9 points. Montpellier s'est fait éliminer par le Puy-en-Velay, équipe de 4e division. Surprise aussi du côté de Saint-Brieuc. Les Bretons évoluent dans la même division et ils ont sorti la Ligue 1 du Havre des 32e de finale. Sur le reste des terrains européens, ce sont les championnats nationaux qui se jouent. Le Napoli prend provisoirement la tête du sien en gagnant 2-1 à Gênes. En Bundesliga, Leverkusen n'a pas fait dans le détail. 5-1 sur Fribourg, ce qui permet au Bayer Leverkusen de recoller au leader munichois. Et puis ce match de haut rang en Espagne, Barcelone-Atlético Madrid, ça se joue en ce moment. C'est à domicile à Barcelone et à la mi-temps. Eh bien, le Barça mène 1-0. RFI, il est 22h09 à Paris, une heure de moins. En temps universel, ce journal touche à sa fin. Tout de suite, retrouvez Ici l'Europe, un entretien avec une personnalité européenne signée Caroline de Camaret. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le prochain tour de l'actualité, c'est dans 50 minutes sur la Radio du Monde.